Alors, nous allons commencer par la première chronique d'Emmanuel Reva, intitulée Itzik numérique. Nous initions des chroniques courtes depuis cette saison 3 de Libre à vous. Donc Emmanuel Reva a une entreprise qui s'appelle Hoga, H-O-G-A, et la mission est de sensibiliser les gens sur la façon d'utiliser des logiciels et des services et de faire la promotion du libre, du partage et de la décentralisation. Alors normalement, Emmanuel est avec nous. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Fred.
Alors Emmanuel, ta chronique va porter donc sur les DRM. Écoute, je te laisse nous expliquer ta façon de penser sur les DRM.
Merci. Parlons du DRM, donc. Tant qu'on a encore le droit de le faire, d'ailleurs. Le DRM, ou Digital Rights Management, ou comme dit la FSF, Digital Restrictions Management, ou en français, la gestion de restrictions numériques, c'est en fait l'obsession des maisons de disques et autres organismes de diffusion, et plus récemment aussi celui de Google, Apple et Netflix, qui, en gros, ça fonctionne techniquement en prenant le contrôle de l'ordinateur des gens pour réguler ce que l'on peut faire ou pas avec nos propres machines. Ça fait des trucs comme permettre à Amazon de supprimer des livres des liseuses de leurs clients. Et ils l'ont fait d'ailleurs avec le livre, avec le fameux 1984. Les clients, eux, peuvent toujours aller chouiner sur des forums ou créer des groupes de mécontents sur Facebook où il n'y aura pas beaucoup de likes, car de toute façon, la génération Facebook accepte pleinement les conditions générales de mépris de l'humanité. Pardon, je m'égare. Ça fait des années, voire des décennies qu'on râle, nous, les libristes, mais aussi quelques libéraux capitalistes. Et oui, parce que les DRM, ça saoule tout le monde. Et pire, ça saoule surtout les clients qui payent pour leurs trucs. Par exemple, le dernier SimCity. Pour y jouer, il faut être connecté à Internet pour prouver qu'on a bien payé pour le jeu. Et aussi qu'on n'est pas banni d'Internet. Fini les soirées dans sa petite cabane en bois au fin fond de l'Ardèche à jouer aux jeux vidéo tranquille, peinard. Et oui, c'est dans ce genre de cadre que j'ai envie de jouer à un simulateur de gestion de construction de villes capitalistes modernes. Pour ces gens, la seule solution pour profiter du jeu, acheter avec de l'argent durement gagné, dans notre monde sans pitié, c'est de le pirater. Et oui, le DRM est devenu monnaie courante. Même la W3C, organisme qui met en place des standards de publication qui sont censés promouvoir le web ouvert à toutes et à tous, sans discrimination et sans barrière, a accepté cette notion de protectionnisme en tant que standard HTML. Et pour aller plus loin dans la déprime, même les ordinateurs avec les systèmes libres sont compatibles avec le DRM moderne. C'est intégré directement dans le navigateur, dans Chromium et sans trop de résistance aussi dans Firefox. Nos médiathèques publiques nous donnent accès à des films et des documentaires très intéressants, mais ça aussi, ça passe par du DRM. Et pas n'importe quel DRM. Voilà, vous avez bien compris, c'est celui de Google qui en plus peut nous pister. Il faut savoir que tous les films et séries diffusées sur Netflix, Arte et autres, qui sont protégés par la magie du DRM, peuvent être trouvés sur les machins de téléchargement illégal sans problème et surtout sans DRM. Du coup, on peut les regarder sans être connecté au fin fond de sa cabane en Ardèche. Bref, le DRM, ça coûte un pognon de dingue et ça fonctionne 5 minutes. Si on voulait vraiment éviter la diffusion via le partage entre guillemets illégal, il faut faire comme avec le film LOL. Et si, avec juste un nom à la con, ce film est pratiquement introuvable sur le site de Torrent. Essayez de chercher LOL sur Pirate Bay, vous verrez bien. Il y a tellement de réponses à côté de la plaque que j'ai carrément attendu qu'il soit diffusé sur TF1 en film du dimanche soir pour me dire que finalement, bof, j'ai pas vraiment envie de le voir. Il faut dire que le fait que le Libé décrit ce film comme comédie bourge à haute teneur sarkozyste peut aussi expliquer le fait qu'on a du mal à le retrouver sur des sites de partage de culture. Et oui, on peut soit parler de pirates, des gens qui attaquent et qui pillent les autres, ou alors on peut parler de partageurs de culture, des gens qui rendent la culture accessible à tous. Alors si vous voulez faire un film qui ne soit pas restreint par le DRM, mais qui soit difficile à trouver sur les interwebs des pirates partageurs de culture, choisissez des titres à la con. Par exemple, pour un film, je vous propose HDTV X264, ou pour une série, saison 3 complète, ou alors WebRip. Il y a aussi Yifi, ou 1080p.blu-ray, ou DJ Ahmed, ou alors il y a AMZN. Avec ces noms, même Google aura du mal à pirater nos œuvres.
Ben merci Emmanuel pour cette chronique. Tu vas rester en ligne avec nous parce que donc la chronique s'inscrit dans une journée internationale contre les DRM organisée par la Fondation pour le logiciel libre, donc journée prévue samedi 12 octobre 2019. Le site web c'est defectivebydesign.org, donc défectueux à dessein ou par conception, mais les références sont sur le site de l'April, april.org. Et le 4 septembre 2018, nous avions consacré une émission au thème des DRM avec Marie Duponchel, avocate, et Jean-Baptiste Kempf de VLC, le fameux lecteur multimédia libre. Et on va vous diffuser un court extrait extrait de cette émission qui dure à peu près 5 minutes 30, 6 minutes. Et Emmanuel, on se retrouve juste après. Donc vous êtes sans doute encore nombreux et nombreux à utiliser des supports traditionnels des œuvres de l'esprit, par exemple un livre papier. Une fois que vous avez acheté ce livre papier, vous disposez de libertés fondamentales, comme celle de le lire comme bon vous semble. Vous pouvez sauter des passages, commencer par la fin, le relire autant de fois que vous voulez, la noter, le prêter. De même, pour les personnes qui portent des lunettes, et nous sommes deux autour de la table sur trois personnes, on ne vous impose pas, quand vous achetez un livre, une paire de lunettes, avec un prix en plus. On ne vous dit pas, vos lunettes que vous avez là, c'est une marque qu'on ne connaît pas, dans laquelle nous n'avons pas confiance. Vous ne pouvez donc pas les utiliser pour lire ce livre, vous devez utiliser nos marques de lunettes à nous, dans lesquelles nous avons confiance. Vous exercez donc votre droit à des usages considérés, comme la plupart des gens, comme légitimes. Et puis, dans ce monde traditionnel, ce sont des pratiques qu'on ne peut pas vraiment contrôler. Parce que sinon, pour contrôler votre usage du livre, si on prend cet exemple-là, vous imaginez un agent assermenté de l'éditeur qui apparaîtrait tout d'un coup à votre côté, vous tapoterait l'épaule, là, et vous dirait « Non, tu dois commencer ta lecture par le premier chapitre, avec toutes les annonces des prochains livres et les alertes sur les dangers ou pseudo-dangers de la contrefaçon, avant même de commencer la lecture de ton roman. Et puis, de la même façon, là, si tu veux relire une deuxième fois le livre, ben, faut que tu repasses à la caisse. » Et pareil, là, tu portes des lunettes, eh bien non, tu dois prendre pas tes lunettes habituelles, tu dois prendre les lunettes qu'on a vendues avec le livre. Bon, évidemment, c'est un peu Big Brother. Ce contrôle absolu des usages privés est inimaginable, bien entendu. Ah, sauf qu'il est inimaginable dans le monde traditionnel. Mais en fait, pas pour tout le monde, car certaines personnes, enfin, de très nombreuses personnes et organisations, bah, notamment qui produisent des livres numériques, des DRM ou tout objet numérique, considèrent qu'à partir du moment où techniquement on peut contrôler des usages, même privés, eh bien on va le faire. Parce qu'après tout, si la technique le permet, on ne va pas se gêner, non, si on peut contrôler des usages privés. Donc de nos jours, un exemple, quand vous achetez un DVD ou de la musique en ligne, et très généralement, on, alors le on étant le producteur, l'industrie, les industries culturelles, vous impose par exemple de visualiser certaines plages sur le DVD, publicité. On vous impose aussi le choix d'un lecteur multimédia. Vous téléchargez de la musique sur un site, vous devez utiliser le lecteur multimédia qui est fourni avec ce site et pas un autre. Et ce contrôle d'usage se met en place par ce qu'on appelle les DRM, donc on va redéfinir après, bien entendu, qui est un outil technique qui contrôle un usage privé, mais aussi, surtout, par leur protection juridique. Est-ce qu'on peut citer quelques exemples? Parce qu'évidemment, aujourd'hui, on va cibler beaucoup la vidéo avec Jean-Baptiste et Marie, mais est-ce qu'on peut citer quelques autres exemples de DRM dans la vie quotidienne qui permettent de comprendre aux gens que finalement, on vit une vraie overdose de DRM? Jean-Baptiste, Marie?
Les capsules Nespresso, où ils ont essayé d'empêcher d'avoir des capsules compatibles. Aujourd'hui, si faut pas acheter Nespresso pour d'autres raisons, notamment écologiques, mais c'était vachement pratique, ça c'est vrai, et ils sont arrivés, ils ont essayé de vous empêcher Monoprix et tout ça, de faire des capsules beaucoup moins chères. Et ça, c'était juste pour des raisons d'incompatibilité et d'attaque juridique. C'est pas exactement des DRM, mais c'est exactement la même idée. Vous n'avez pas le droit de mettre le café que vous voulez, vous mettez le café que je vous vends, et dont j'ai fait l'approvisionnement, et dans lequel j'ai mes marges, etc.
Marie, vas-y.
On avait aussi l'exemple dans les imprimantes, on a eu pendant très longtemps en fait des petits systèmes qui vous disaient si vous ne mettez pas la cartouche imprimante de ma marque, votre imprimante ne marchera plus. C'est des exemples concrets, c'est à la limite des mesures techniques de protection, mais ça montre que c'est la même problématique et c'est exactement la même logique en fait.
Étienne, tu as un exemple
hein? Oui, je pense à un exemple. Moi, je sais que je suis amateur de jeux vidéo. Quand je suis obligé d'être connecté à Internet pour jouer à un jeu qui, pourtant, le jeu lui-même ne nécessite pas une connexion, mais pour vérifier que je l'utilise comme contenu ou que j'ai pas une version qui ne serait pas autorisée, quand je suis obligé de me connecter, je pense que ça relève même de cette même logique.
Et moi, je pense que l'exemple que tu donnais tout à l'heure avec des lunettes qui se brouillent quand tu lis un bouquin, ça fait rigoler aujourd'hui. Dans 20 ans, c'est carrément possible. Quand on voit l'évolution de la réalité augmentée ou même des Google Glass, aujourd'hui c'est ridicule. Franchement, dans 30 ans, c'est pas une blague, quoi. C'est tout à fait possible.
D'avoir l'accès à la pleine expérience. C'est-à-dire, si vous avez nos lunettes, vous aurez une expérience supplémentaire.
Non, mais ouais. c'est pas déconnant de se dire que dans 15 ans, 20 ans, tout le monde aura des lunettes qui rajouteront des informations, plutôt que d'avoir à sortir son smartphone pour savoir où tu vas. Ça peut être vachement cool pour plein d'utilisations. Et donc, c'est pas débile de se dire que ça va être quelque chose qui va être généralisé. Et donc, à ce moment-là, oui, mais non, vous n'avez pas le droit de passer par là, vous n'avez pas le droit. Donc, il y a des possibilités vraiment gênantes. Moi, je n'utilise pas de DRM. Moi, je dis...
Tu utilises quoi ?
Je ne parle pas de management à chaque fois. Je ne dis pas gestion, je dis limitation. Parce que c'est ce que je dis aussi en anglais. Je parle de digital right limitations. Et parce qu'en fait, le management, il a l'impression qu'il y a une gestion, comme ça simplifie. Alors qu'en fait, ça, pour l'utilisateur, c'est une limitation de ses droits.
Donc c'était un extrait de l'émission donc du 4 septembre 2018 consacrée au DRM. Vous retrouverez évidemment le podcast sur le site causecommune.fm et sur le site april.org. Emmanuel, souhaitais-tu faire une petite réaction courte suite à cette diffusion ?
Alors oui, il y a un truc, il y a deux trucs que je voulais dire, mais je crois que je vais n'en dire qu'un parce que sur le DVD et tout ça, il y a pas mal d'exemples déjà. Mais je pensais aussi aux argumentaires des gens qui veulent défendre le DRM. Et souvent, ils se défendent avec des trucs aussi absurdes comme la copie à usage personnel tue l'industrie, qui était le gros truc dans les années 80 en anglais, d'où la cassette qu'on voit dans pas mal de logos de Pirate Bay, par exemple. Et dans IT Crowd, on voit un poster avec marqué « La couture maison tue la mode ». C'est très intéressant, ça résume super bien ce que l'on fait en dehors du contrôle du capitalisme nuit au capitalisme. Et donc, il faut absolument l'interdire. Avec l'informatique moderne, on peut pousser plus loin que la loi. Et en fait, c'est ça le DRM.
Écoute, c'est une belle conclusion. Je vais juste préciser que IT Crowd est une série anglaise qui a eu 2 ou 3 saisons. Et je pense qu'on peut trouver les épisodes sur Internet. Écoute, merci Emmanuel. Donc c'était Emmanuel Reva de le site oga.fr. Et on se retrouve le mois prochain.
Ouais, merci.
Belle journée. À bientôt.
À vous aussi. Au revoir.